La Finistérienne Catel Alençon est une cycliste accomplie. Elle a participé à deux compétitions paralympiques, les Jeux de Rio et ceux de Tokyo, en septembre 2021. Elle est avec nous en studio. Bonjour Catel. Première question que nous avons envie de vous poser après les Jeux de Tokyo, quel est votre premier sentiment ?
Bonjour. Alors, mon premier sentiment, il est d'abord que voilà, j'ai vécu ces Jeux de manière... En gros, je les ai vécus à bloc, hein. Et c'est plutôt positif quand même. Je rentre avec une place de finaliste, donc une cinquième place. Donc c'est quand même une bonne chose. Après, voilà, je rentre sans médaille. J'aurais bien aimé vous montrer la médaille, mais elle n'est pas là. Mais voilà, je vais rester sur ce point positif. J'ai quand même beaucoup mieux vécu mes jeux qu'à Rio, en fait. Donc ce fut une belle aventure.
Après Tokyo, est-ce que vous n'auriez pas Paris 2024 dans un coin de votre tête ?
Évidemment que si, des jeux à la maison, ça fait rêver. Là, je pourrais avoir du public, je pourrais avoir mes supporters qui seront au bord de la route. Je fais un sport qui est visuellement facile d'accès. Donc, tous les petits jeunes que j'encadre au niveau de l'école de vélo pourront venir me voir. On va faire en sorte que tout le monde soit là, ma famille aussi. Là, vivre Tokyo sans famille, sans amis, sans supporters, c'était compliqué. Donc, des jeux à la maison, je pense que voilà, ça fait rêver tout le monde. Et moi, ça me fait rêver plus, quoi. Et j'espère améliorer mes résultats. Et pourquoi pas monter sur un podium ici en France. Ce serait vraiment quelque chose d'extraordinaire. Et du coup, voilà, c'est vraiment voilà, le rêve suprême, quoi.
Est-ce que vos performances sur Tokyo font partie de vos meilleurs moments de vélo ?
Oui. Après les jeux, ça reste de toute façon les meilleurs moments d'une carrière, parce que vivre des jeux, c'est quand même pour un sportif quelque chose d'extraordinaire. Maintenant, je vais oublier cette course sur route parce que la course sur route, j'ai dû abandonner. Donc voilà, il y a une des deux courses qui s'est mal passée, où j'ai cassé mon dérailleur, donc j'ai pas pu m'exprimer, et pas pu faire le meilleur résultat qui soit. Maintenant, oui, le chrono, ça restera un de mes meilleurs souvenirs sur mon vélo, mais voilà, après je garde d'autres courses en mémoire, je garde les championnats du monde de cette année où je suis vice-championne du monde du contre-la-montre, donc ça reste quand même une des performances que je ne vais pas oublier. Après j'ai gagné deux coupes du monde, celle-là je ne vais pas les oublier non plus, donc les jeux c'est quelque chose de différent, quelque chose qui voilà, reste à jamais parce que c'est des jeux, et oui, ces courses-là je vais les garder, ouais.
Et tant qu'on parle de jeux paralympiques, est-ce que vous pouvez nous expliquer les catégories, parce qu'on n'a vraiment rien compris.
Alors les catégories, c'est quand même très compliqué. On a plusieurs types de vélos déjà. On a la catégorie tricycle où il y a deux catégories. Donc ça, c'est pour les personnes qui sont infirmes moteurs cérébraux. Après, il y a la catégorie tandem pour les malvoyants. Il y a la catégorie handbike pour les problèmes de jambes, donc les paraplégies et les doubles amputations des membres inférieurs. Et aussi les tétraplégies, mais tétraplégies incomplètes. Donc en fait, il y a 5 catégories d'handicap dans les handbikes qui vont de 5 les moins handicapés à 1 les plus handicapés. Donc les H1, en gros, il lui reste, c'est compliqué de pédaler parce qu'ils sont tétraplégiques et il n'y a pas beaucoup de muscles qui fonctionnent. Et après, il y a ma catégorie de vélo qui est la catégorie C. Donc WC, donc c'est pas les toilettes, c'est W pour woman et C pour cycling. Et là, pareil, il y a 5 catégories. Donc la catégorie C5, ce sont les moins handicapés, donc atteints de membres supérieurs, souvent c'est les agénésies du bras. Ou alors il y a aussi les amyotrophies du mollet légères, donc c'est une atteinte de membre inférieur mais légère. Ensuite, il y a la catégorie C4 qui est la mienne. Donc là, c'est amputation tibiale ou assimilée, ou alors double amputation des membres supérieurs. Donc sous le coude. Après, il y a la catégorie C3 où on retrouve les doubles amputés tibiaux ou des hémiplégiques légers. La catégorie C2 où on retrouve là aussi des hémiplégiques mais plus importants et les gens pédalant sur une jambe, donc les amputés fémorales. Et en catégorie C1, souvent c'est des atteintes des quatre membres ou des gros troubles, les IMC, mais qui ont décidé de faire du solo et non du tricycle. Donc voilà, c'est quand même des gens qui sont très très handicapé en catégorie C1.
D'accord. Et qu'est-ce que vous pensez de ces catégories ? Est-ce que vous trouvez parfois que ça peut être très injuste pour certaines personnes ?
Je confirme que c'est très très injuste. Moi personnellement, dans ma catégorie, sur les Jeux de Rio, on était 80% d'amputés dans ma catégorie. Là actuellement, ils nous ont rajouté après Rio, même un petit peu avant qu'ils les ont rajouté, les atteintes neurologiques. Donc c'est des gens qui ont eu des traumatismes crâniens ou qui ont des maladies dégénératives neurologiques. Et donc le fait qu'ils aient rajouté ces personnes zone-là fait que les amputés, on n'a plus beaucoup de place. Et là, sur les Jeux de Tokyo, j'étais la seule amputée dans ma catégorie. Et il y avait aussi une Chinoise qui était double amputée des bras. Donc, en gros, on était deux C4, on va dire, du passé. De vrai. Donc, deux vrais C4, voilà, sur ces Jeux de Tokyo. Donc c'est, voilà, les catégories sont très compliquées. Après, on ne peut pas multiplier non plus le nombre de catégories. Et forcément, dans le handisport, on ne pourra pas... je veux dire, même dans un même handicap, il n'y a pas deux personnes qui se ressemblent. Et je pense là... plus aux neurologiques, donc aux hémiplégiques et compagnie. Là, les hémiplégiques, entre savoir lequel utilise réellement bien son bras ou pas, c'est compliqué. Donc voilà, c'est pas simple d'être classificateur non plus, mais il y a une certaine injustice. Et je pense qu'il y a aussi une certaine tricherie de certains athlètes qui, bah voilà, c'est que...
Ils font semblant.
Voilà, ils font semblant en classification, mais après, dans la vie de tous les jours,
Ils utilisent très bien leurs membres.
Donc, c'est très compliqué. Et après, entre l'honnêteté des gens, les classificateurs qui ont un gros travail à faire, donc c'est très compliqué. Mais je pense qu'au jour d'aujourd'hui, on pourrait utiliser beaucoup plus les technologies qui existent, donc les capteurs de puissance et autres, qui pourraient nous servir à classifier les gens et éviter justement d'avoir des gens qui trichent. Et voilà, mais avant qu'on en arrive là, je pense qu'il va se passer encore du chemin.
Ouais. Et puis, du coup, de toute façon, ça sera impossible dans les Jeux paralympiques de partir tous à égalité.
Oui, c'est sûr que ce sera impossible. On n'a pas tous le même handicap. On n'a pas tous, même pour avoir le même handicap qu'une autre personne, ce ne sera pas forcément la même chose. Donc, non, ce sera très compliqué. C'est très compliqué d'avoir la même chose.
Et justement, est-ce que vous trouvez une injustice entre, par exemple, les gens qui sont amputés inférieurs et supérieurs dans le cyclisme, justement?
Alors, pas tellement. Les amputations, c'est assez simple à classifier parce qu'une fois que c'est coupé, c'est coupé. Ça ne va pas repousser. Le muscle, il n'est plus là. On ne va pas l'inventer. Donc voilà. Moi, personnellement, ça dépend des épreuves. Mais j'estime que la Chinoise qui est double amputée des bras dans ma catégorie... elle est aussi, voire plus handicapée que moi dans certaines circonstances. Après, sur la piste, j'avoue que voilà, une fois que le départ il est donné, sur une poursuite où elle est toute seule, où il suffit de tenir le guidon en position aéro, bon, bah là, oui, forcément, elle a ses deux jambes, elle a plus de force que moi. Mais à côté de ça, sur les autres épreuves, que ce soit sur la course route ou le contre-la-montre, où il faut négocier des vrais virages, bon, j'estime qu'elle est embêtée. Et puis quand je vois son système de changement de vitesse, voilà, moi, il me suffit de regarder quand elle change ses vitesses et c'est bon, j'attaque et elle n'est plus là, quoi. Donc voilà, si je la vois aspirer dans sa paille pour changer ses vitesses, bon, je sais qu'à un moment donné, quand il n'y a plus d'air, il n'y a plus d'air, quoi. Donc voilà. Non, après, chaque handicap a ses problèmes, a ses inconvénients. Mais vraiment, c'est plus les personnes qui sont atteintes neurologiques que moi je trouve qu'ils n'ont rien à faire dans ma catégorie. Les amputés membres sup, bon, voilà, c'est comme ça, c'est là, et puis ça se fait, quoi.
C'est comme s'ils devaient rajouter une catégorie pour ceux qui sont atteints des neuro...
Voilà, les atteintes de neuro, en fait, il existait une autre catégorie. Je sais que pour les Jeux de Londres en 2012, c'était une autre catégorie, c'était la catégorie CP. Et donc, cette catégorie-là, c'était réservée qu'aux personnes atteintes neurologiques, donc tous les traumatisés crâniens et autres. Et du coup, bah, cette catégorie-là, elle s'est rassemblée avec notre catégorie. Et là, ça a complexifié vraiment les choses, quoi.
On aimerait aussi vous parler de vos débuts dans le vélo, notamment dans le circuit handisport. Est-ce que ça n'a pas été une vraie redécouverte de votre sport ?
Si, évidemment. Moi, j'ai recommencé le vélo donc, après les Jeux de Londres, donc en 2012, enfin 2013 pour de vrai, parce que 2012, j'étais encore un petit peu dans la rééducation. Mais 2013, j'ai repris et oui, ça a été une belle redécouverte, on va dire. J'aimais beaucoup ce sport, j'ai toujours adoré aller au vélo le samedi et puis voilà, enfin me donner à bloc et là j'ai redécouvert un sport où il fallait se dépasser, où fallait, et quand on est en situation de handicap, faut faire encore plus d'efforts. Donc du coup, ça a été une reconstruction par le sport et le dépassement de soi. Donc voilà, j'ai plus vécu, on va dire, le vélo maintenant comme la chose qui m'a fait sortir de la misère, on va dire. Donc voilà, c'était vraiment voilà ce qui m'a fait rebondir, quoi.
Tiens, d'ailleurs, pourquoi le vélo, comment on tombe dedans?
Alors, comment on tombe dedans? Moi, je suis tombée dedans un peu par hasard. Mes parents venaient pas du tout du monde du vélo. Ma maman faisait du hand en haut niveau et mon papa faisait du foot. Donc, sport collectif, ils ont essayé de me mettre au hand et puis, j'ai pas trop aimé ça. Rattraper un ballon, je savais pas trop faire. Donc, du coup, le hand, j'ai vite oublié et mes grands frères ont commencé le vélo. Parce que bon, il y avait un qui faisait du foot, mais il cueillait les pâquerettes au milieu du terrain de foot et du coup, il s'est dit, plutôt que cueillir les pâquerettes, je vais peut-être aller faire du vélo. Ça a l'air plus sympa. Et lui, s'est pris de passion pour ce sport. Et du coup, il nous a embarqué, mon autre frère et moi, dans ce sport qu'on a trouvé finalement génial. Et puis, dans lequel on a trouvé un certain équilibre. Et puis, voilà, on était un peu casse-cou. On était un peu. Donc, on adorait le cyclo-cross, on adorait le VTT. Et du coup, on passait tout notre temps libre pratiquement sur notre vélo. On en a cassé des vélos d'ailleurs. Mais du coup, on s'est pris de passion pour ce sport tous les trois. Et puis voilà, c'était notre moment à nous aussi. Et puis on bougeait tout le temps. Donc voilà, c'était le petit moment où on bougeait dans tous les sens. Et puis, on aimait bien casser les vélos et faire des tremplins. Et puis voilà.
Et justement, si on parlait fierté et meilleurs moments de votre carrière, quels sont-ils? Parce que vous avez parlé de Jeux Olympiques et Coupe du Monde, mais est-ce qu'il y en aurait d'autres?
Je ne sais pas trop si je dois retenir un moment ou je ne sais pas. Après, il y a des moments que je veux oublier, mais il y a beaucoup de moments que je veux garder en tête. Il y a les deux Jeux Paralympiques, forcément. Même si Rio, j'ai été submergée par le stress et j'ai eu du mal à montrer ce que je valais. Maintenant, Tokyo, j'oublierai pas mes championnats du monde à Cascais cet été, parce qu'en plus, on était en retour de période Covid, donc voilà, on a eu une longue période sans compétition, et là, pour le coup. Enfin, on est sur les compétitions. Enfin, certes, sans spectateurs, mais quand même, on est sur notre vélo et puis on peut enfin faire une compétition. Après, il y a aussi ma première compétition chez les Valides où, je me suis rendu compte que malgré l'amputation, j'étais pas capable de ne rien faire. Donc voilà, ça fait partie aussi des moments que je veux garder en mémoire. Et après, il y a beaucoup, beaucoup de moments. Mon premier podium en Italie, en Coupe du Monde, premier podium international sous les couleurs de Cofidis. Parce que c'était ma première course sur les couleurs de Cofidis et c'est mon premier podium international. Donc ça aussi, je veux le garder. En fait, il y a plein de moments que je veux garder parce que je m'éclate dans ce que je fais. Et voilà, chaque moment, chaque compétition, c'est un souvenir. Chaque endroit du monde visité, c'est un souvenir. Donc toute cette période de ma vie, je pense que je l'oublierai jamais. Et ça ne s'arrête pas là, parce qu'il y a encore plein de belles choses à vivre. Donc voilà, il y a plein de moments que j'adore.
Alors en ce moment, il y a un cycliste français qui cartonne. Est-ce que pour vous, Julien Alaphilippe est un bon modèle?
Alors c'est surtout une belle image pour le cyclisme. Parce que voilà, ça donne envie aux petits jeunes de venir découvrir notre sport. Il met des étoiles dans les yeux à tous ces petits enfants d'école de vélo. Donc voilà, d'avoir un maillot arc-en-ciel en France 2 années de suite, c'est quand même quelque chose de chouette. Sur le Tour de France, de voir un Français avec le maillot arc-en-ciel, je pense que ça fait rêver les enfants. Et puis de le voir gagner à Landerneau sur la première étape du Tour de France, je pense que voilà, moi j'y étais à cette montée là-bas à Landerneau, et franchement de voir tous les jeunes qui étaient sur le bord de la route avec plein d'étoiles dans les yeux, à voir Julien gagner, franchement c'était quelque chose d'extraordinaire. Et c'est vraiment bien pour notre sport, ça donne envie.
On a également lu que Martin Fourcade était un de vos sportifs préférés. Mais alors, pour quelle raison?
Martin Fourcade, il a fait quand même des résultats extraordinaires. C'est quelqu'un qui est humble, qui se dépasse tout le temps. Et même dans l'adversité, il est toujours là. Il donne le meilleur de lui-même. Et puis, il n'est pas sur le bord des pistes de biathlon à se la péter et à dire ouais, je suis le plus beau, je suis le plus fort. Non, ce n'est pas ça. C'est vraiment quelqu'un de humble et qui montre que voilà, en s'entraînant très très dur, on arrive à ses fins et lui, franchement, c'est un des plus beaux palmarès français et il a tout réussi dans sa carrière et pourtant il reste très très humble.
Nous demandions s'il était possible de vivre du vélo.
Alors oui, il est possible de vivre du vélo. On parlait de Julien Alaphilippe tout à l'heure. Lui, il en vit, hein, il n'y a pas de problème. Nous, dans le handisport, c'est plus compliqué. Je n'ai pas le même salaire que lui. Mais bon, moi, j'ai quand même la chance d'avoir quelques partenaires qui font qu'aujourd'hui, je peux vivre du vélo. Donc, j'ai la team Cofidis qui est derrière moi. J'ai une mutuelle aussi qui me suit, donc la GEAS. Et puis, j'ai 2-3 partenaires ici en local. Et j'ai aussi le conseil régional, le GDOS, le CROSS qui m'aident au quotidien et surtout dans les années olympiques, plutôt les années paralympiques, pardon. Moi, personnellement, j'ai la chance de pouvoir en vivre de mon sport et c'est top parce qu'aujourd'hui, si on veut réussir à obtenir le meilleur résultat, obtenir une médaille au jeu, on ne peut pas travailler à côté, c'est pas possible. Moi, je m'entraîne 20 heures par semaine. Si je travaillais à côté, je ne vois pas comment je ferais. Donc voilà, après, il faut se consacrer à 100% à son sport si on veut réussir. C'est ce que je fais, c'est ce que j'ai la chance de faire grâce à des partenaires. Et c'est vraiment génial et je les remercierai jamais assez parce que grâce à eux, j'ai les résultats que j'ai eus cette année. Grâce à eux, je suis numéro 1 mondial à la fin de cette saison. Donc voilà, c'est top. Et voilà, j'ai pas un salaire mirobolant, je m'appelle pas Mbappé, je m'appelle pas même Martin Fourcade, hein, j'ai pas autant à la fin du mois, mais par contre j'ai un minimum pour vivre et surtout j'ai du matériel top et voilà, et je me contente largement de ça et ça se passe très bien.
Et justement, est-ce que vous avez déjà pensé à votre futur après carrière par exemple?
Alors oui, j'y ai déjà pensé, y compris j'en ai discuté aussi avec mes partenaires. Donc moi, personnellement, je pense que je vais rester quand même dans le monde du vélo, même si, on va dire que je fais que ça dans ma vie, mais c'est quand même ma passion. Donc est-ce que je me lancerai dans le coaching, en tant qu'entraîneur ou le coaching mental peut-être, je ne sais pas. Mais je pense que je resterai dans le monde du vélo. Après, je serai en contact avec du public, ça c'est certain, parce que je ne me vois pas dans un bureau tout seul derrière un ordinateur, je déteste ça. Donc je ne me vois pas non plus assise sur une chaise toute la journée, ce n'est pas possible, ça ne me ressemble pas. Donc il faudra que je trouve un truc où il faut que je bouge, Mais je resterai sans doute dans le monde du sport.
Le monde du sport où il y a du public, il y a du contact avec des personnes, tout ça.
Exactement.
Alors nous, on est curieux aussi et on voulait vous demander quelles études vous avez fait avant de rentrer dans le vélo.
Alors moi, j'ai fait un bac service en milieu rural, donc c'est un bac technologique, mais j'étais pas scolaire du tout. Mais quand je dis pas scolaire du tout, j'étais plutôt la fille au fond de la classe qui n'aime pas l'école. C'est pas que j'étais pas capable, hein, j'avais des bonnes notes à l'école, c'était pas le problème, mais c'est juste que je n'aimais pas ça, j'étais pas du tout faite pour rester au fond de la classe. D'ailleurs, voilà, c'est ça. D'ailleurs, il y a plusieurs de mes amis qui me disent, mais je sais pas comment tu faisais pour être à l'école assise sur une chaise pendant 7 heures. Non, je sais toujours pas comment j'ai fait. Mais bon, ça s'est fait. Et donc, j'avais commencé à travailler quand j'ai eu mon accident. Donc, je travaillais en école maternelle. J'étais à TSEM, en fait, en école maternelle. Donc, c'était ça, mon métier. Je pense pas que je reprendrai ce métier un jour. Parce que c'est un peu compliqué de s'occuper des petits quand on est en situation de handicap. C'est quand même pas simple. Si je dois leur courir après, je vais peut-être avoir un peu de mal.
Ou bon, alors en vélo, quand en vélo, voilà, c'est plus ça. Simple.
Je vais prendre une draisienne pour leur courir derrière. non, mais du coup, voilà, je vais me reconvertir. Mais je ne regrette pas cette vie-là non plus parce que j'adorais ce que je faisais. J'aimais beaucoup être au contact des enfants parce que j'ai toujours aimé ça. Et finalement, j'étais retournée à l'école, mais pas de la même manière chez les plus petits. Donc non, c'était une belle vie aussi. Et moi, je pense que j'ai eu 3 vies. J'ai eu ma vie avant, ma vie de personne malade et puis ma vie actuelle. Donc, c'est 3 vies bien différentes. Mais je ne regrette pas non plus cette première vie que j'ai eue. Et elle était aussi géniale. Hein. Il n'y a pas de souci. Ouais.
Actuellement, vous avez une carrière magnifique dans le handisport. Est-ce que votre regard depuis le début n'a pas changé?
Mon regard par rapport à...
Au handisport.
Non, je pense que c'est un monde qui n'est pas bien différent du monde valide. Au final, c'est des êtres humains avec un cœur, avec un cerveau et puis avec tous un petit handicap ou un gros handicap, ça dépend. Mais je pense qu'on est dans le sport de haut niveau, on est avec des personnes qui se dépassent, avec des personnes qui veulent toujours aller plus vite, plus haut, plus loin. Et ça, c'est la même chose que dans le monde valide. Je pense que c'est pas bien différent. Mais voilà, après, ce sont des personnes qui se sont reconstruites pour la plupart ou pour d'autres qui se sont construites avec un handicap dès la naissance, donc qui ont une autre vision de la vie, qui vivent beaucoup plus au jour le jour que le commun des mortels. Enfin, moi, je parle pour moi parce que moi, c'est le cas en tout cas. Mais beaucoup de mes collègues qui sont dans le handisport vivent au jour le jour et se projettent moins que dans le monde valide en disant bon bah quand je serai à la retraite, je ferai ça quoi. On se projette pas du tout vers la retraite.
Ouais. Il y a le temps encore.
C'est ça, il y a le temps.
Est-ce que les regards des autres évoluent ?
Oui, je pense que les regards des gens évoluent. Il y a... Voilà, moi, quand je vais au départ d'une course valide, on me regarde pas comme la pauvre petite handicapée qui fait du vélo. On me regarde comme une personne qui pédale au même titre que les autres. Et d'ailleurs, il n'y a pas de pitié hein, dans le monde valide. C'est pas parce que je suis handicapée que qu'on va me dire non, attention. Non, t'as un tour de moins. Hein. Non, non, j'ai les mêmes conditions, j'ai les mêmes voilà. Et je pense pas qu'on me regarde différemment parce que je suis amputée. Les enfants que j'encadre, ils ne voient plus que je suis amputée parce que pour eux, je suis juste là et une fois qu'ils le voient une fois, deux fois, ils ne se posent même plus la question de savoir pourquoi il manque un bout, en fait. Donc, non, je pense que le regard évolue dans le bon sens et les gens n'ont pas... Ouais, non, je n'ai pas trop de remarques ou de... Après, je n'ai pas un handicap moche non plus. Enfin, je veux dire, il me manque un bout, mais ça fait un peu jambe de robot. C'est plutôt sympa. Les enfants trouvent ça plutôt high-tech, les prothèses. Donc, c'est plutôt fun, ouais.
Après qu'ils ont posé la question, voilà. Et que vous avez expliqué, bah, maintenant, ils se disent, bon, bah, j'ai la réponse, c'est fini.
C'est ça, exactement. Donc, ça passe à autre chose direct.
Et pour finir, est-ce que vous trouvez qu'il y a un manque de médiatisation pour les Jeux paralympiques, par exemple ?
Alors déjà, il y a un manque de médiatisation pour le sport au féminin. Il y a un manque de médiatisation pour le parasport, effectivement.
Pour le vélo.
Et pour le vélo féminin encore plus. Donc moi, je suis handisport, je suis cyclisme, je suis fille.
Et la totale.
Donc j'ai la totale, je suis... On va dire que je suis polyhandicapée là sur le coup. Non, mais c'est... voilà, la médiatisation, ça avance. Ça avance dans le bon sens. Maintenant, il y a encore des progrès à faire, c'est certain. Mais voilà, je trouve que là, les Jeux de Tokyo, enfin, après, j'étais pas en France pour les voir, mais ceux qui voulaient vraiment regarder les Jeux paralympiques, je pense qu'ils ont pu regarder les Jeux paralympiques. Et c'est déjà une bonne chose, c'est une belle avancée. Mais il y a encore des progrès à faire, et y compris dans les salaires, parce que dans le parasport, il y a quasiment pas de professionnels. On est très, très peu de professionnels, alors que dans le monde du sport, tout court, il y a beaucoup plus de professionnels. Maintenant, ça va sans doute venir, et la médiatisation fait que le sport évolue, fait que si les gens regardent, il y a des sponsors qui regardent. Si des sponsors regardent, il va y avoir des envies de financement. Donc c'est un cercle infini, et je pense que là, on avance dans le bon sens.
Oui, c'est ça. Donc si les médias commencent à montrer un peu comme s'il y avait un nouveau...
De l'intérêt.
Sport, c'est ça, un intérêt pour le handisport, notamment dans le cyclisme. Bah, du coup, ça va évoluer et ça va faire donner envie à plus de personnes, par exemple, de pouvoir faire.
Exactement.
C'est-à-dire, c'est pas parce qu'ils ont un handicap qu'ils peuvent ne pas faire de sport ou du cyclisme. Ou justement.
C'est ça. On a une culture en France qui est un petit peu de surprotéger les handicapés. Où voilà, on entend « Oh, mon pauvre petit handicapé, il faut qu'il reste bien protégé à la maison, dans un petit cocon où rien ne pourra lui arriver. » Sauf que c'est pas ça la vie. Si on sort à l'extérieur, je veux dire, handicapé, pas handicapé, c'est la jungle. Hein. Donc, ouais. Voilà, un petit gamin paraplégique, s'il apprend pas à monter un trottoir, forcément, il saura jamais le faire. Donc voilà, c'est faut pas avoir peur. Tout le monde est capable de faire bien des choses. Et puis, handicapé ou pas handicapé, c'est pareil. Il faut avancer, la vie est belle, quoi.
Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. Et puis...
Merci.
Merci. Merci beaucoup.
Merci bien.